Marc.
Alors, peut-être reprenons là où tu t'es arrêté, justement, c'est-à-dire que tu peux dire en quelques mots ce que tu entends par organologie de la majorité.
Ben, si tu veux, ce que j'appelle l'organologie de la majorité aujourd'hui, mon raisonnement est assez simple. Hein. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je revendique l'exigence de majorité. Et alors, j'ai pas eu le temps de parler de Condorcet, parce que je serais passé par Catherine Kinsler, en l'occurrence, là. La majorité dont parle Jules Ferry, c'est pas simplement celle de Kant, c'est celle de Condorcet. Enfin, c'est bien d'autres choses, mais c'est aussi une majorité, évidemment, démocratique. C'est-à-dire une majorité du droit de vote majoritaire, etc. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas fonder une démocratie sans une organologie démocratique, ça on en a beaucoup parlé ensemble dans un livre, et dans les séances d'Ars Industrialis. Moi je le pose contre Jacques Rancière, ça. Que une démocratie, ça, c'est pas une génération spontanée comme ça, ça exige un niveau d'organologie. Sans écriture de la loi, pas de démocratie. Donc ça c'est un premier élément de l'organologie de la majorité. Si on veut une majorité au sens de Condorcet cette fois-ci, pas simplement de Kant, il faut une écriture de la loi, ce que dit très très clairement Condorcet d'ailleurs. Et là, évidemment, ça fait des années que j'en appelle à ça, c'est Jean-Pierre Vernant, la référence qu'on vogue toujours sur ce sujet. L'école est un lieu de constitution d'une majorité à la fois au sens de la Clairon Kant, c'est-à-dire ce qu'il appelle une raison critique, et au sens de Condorcet, c'est-à-dire un citoyen capable de voter. Ce qui suppose d'ailleurs qu'on distingue au plan générationnel un âge mineur et un âge majeur. Ce qui fait que, je crois que je l'avais dit l'autre fois, moi je mets un peu tout ce que j'ai dit aujourd'hui sous l'actualité, si je puis dire, sous les lumières ou les ombres de l'actualité, de la suppression de ce qu'on appelle l'excuse de minorité sur les délinquants mineurs.
Alors, je peux introduire une chose là.
Oui, j'ai pas fini de lui répondre, mais je.
Oui, non, mais parce que ça paraît. Là, il semble que vous mettez de côté le. À propos de la minorité, la religiosité. Autrement dit, il n'y a pas de lumière sans Voltaire. Autrement dit, ce que nous sommes en train d'appeler la minorité, etc., là, dans ce que Dr. Locke, c'est entendu, disons, par 95% des humains, comme. La vérité. Autrement dit, ce qui s'oppose, prenons l'exemple de Darwin, ce qui s'oppose à la majorité, c'est précisément la religiosité. Donc, autrement dit, de ce côté-là, je voudrais que vous disiez quelque chose quant à la différence minorité-majorité, qui n'est justement pas une différence entre les imbéciles et les. C'est,
autrement dit, d'accord. Merci, Michel. Oui. Merci, Michel, de poser cette question. Je vais vous répondre. Je vais finir de répondre à Marc, mais je vais enchaîner dessus. Ouais. Mais, simplement, juste pour finir ce que je disais à Marc, répond.
Parce que moi, je voudrais rebondir sur ce que tu vas dire, en rebondissant sur ce que vient dire Michel, parce que ça me fait penser à.
D'accord, mais laisse-moi d'abord finir. Et puis je réponds à Michel, puis tu reprends la parole. L'école est un lieu de constitution, de l'intégration, de ce que j'appelle l'intériorisation du pharmacon littéral, pour être précis, d'une intériorisation du pharmacon littéral qui permet de faire que ce pharmacon littéral soit un remède, je revendique ce terme de remède, parce que pour moi je pense comme Nietzsche que l'âme pharmacologique est absolument malade et à jamais, et elle le sera toujours, elle est incurable de ce point de vue-là. Mais par contre, elle peut, dans sa maladie, trouver sa grande santé. Ça, je crois ça. Mais que ça, c'est lié à des états pharmacologiques et organologiques historiques qui sont... Par exemple, ce que dit Kant en 1700, je ne sais plus combien exactement, c'est 80... Je ne me souviens plus de la date exacte. Qu'est-ce que les Lumières ? Bon. Ça n'est possible que parce qu'il existe des gazettes, une imprimerie, enfin tout un ensemble. Ce sont des propos qui n'auraient pas eu le moindre sens à l'époque grecque, alors que l'écriture existait, mais pas sous cette forme imprimée. Et la question que vous me posez, Michel, et je vais y revenir, elle n'est possible qu'à partir de l'imprimé. Je ne pense pas que Voltaire puisse exister sans le livre imprimé. Ça, ce sont des problèmes de ce que j'appelle une organologie de la majorité. Après, ce que je voulais développer, je n'ai pas eu le temps, pour finir de répondre à ta question, c'est de dire, toujours pour prendre au mot le Premier ministre actuel, et j'ai fait ça, excusez-moi, je suis un peu gonflé, mais en disant, bon, ben, il y avait Frédéric Prusse, maintenant il y a François Fillon, discutons. Oui, bon, c'est pas tout à fait la même. Hein, mais, pardon ?
Envergure.
Ni envergure, ni en plus, Frédéric de Prusse est quelqu'un quand même pour lequel j'ai... Outre que c'est un musicien intéressant, c'est quelqu'un, quoi. Hein. Mais... N'empêche que j'ai essayé de leur... Parce que je ne sais pas si vous l'avez lu, cette déclaration de Fillon à l'Assemblée nationale, c'est très intéressant, c'est très très intéressant. Il en appelle aux philosophes, il en appelle aux scientifiques, il en appelle, etc. Bon, c'est vraiment une mobilisation générale de l'esprit. Très intéressant, c'est très très... Il faut commencer par la prendre au sérieux, après on peut... Mais moi ce que je dis, c'est si on veut poser ce problème de la bataille d'intelligence, il faut poser le problème d'une organologie de la majorité, où il faut à ce moment-là lutter contre quoi. C'était ce que je voulais dire après, mais je n'ai pas le temps. Là, Michel, je commence à m'entendre, plus contre l'Église, c'est pas le problème. Ça, c'était le problème de Jules Ferry. Jules Ferry a voulu constituer une formation de la majorité, au sens à la fois de Kant et de Condorcet, par l'instruction publique, laïque et obligatoire, contre le pouvoir de l'Église. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Le problème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir des médias. Il y avait un nouveau pouvoir, avant le nouveau pouvoir férien, le nouveau pouvoir laïque de l'État français, qui était le nouveau pouvoir de la papauté. Pouvoir, nouveau pouvoir, ça veut dire pouvoir de l'esprit. Et ce pouvoir de l'esprit, c'est le pouvoir de l'Esprit Saint et de la Trinité. J'espère que je vais avoir une discussion bientôt avec Agamben, qui fera d'ailleurs un séminaire ici même sur le sujet. Pas sûr que j'arrive à le suivre très loin, non. Mais c'est très intéressant. L'oikonomia, le problème qu'il soulève, la profanation, etc. Je suis sur ce terrain-là. Mais moi, je dis, on pose le problème ici d'une polémologie de l'esprit. Et tout à fait au début de ce séminaire, je crois d'ailleurs que vous étiez là, Michel, nous avons dit, quand on fait polémologie, c'est le problème de guerre. On fait la guerre. À quoi est-ce qu'on fait la guerre? Il faut identifier où sont les adversaires. Quels sont les buts de guerre, quelles sont les armes des combattants, etc., etc. Leur stratégie, leur tactique, leur nombre de divisions, comme disait l'autre, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, en face de nous, ce n'est pas l'Église le problème, ce n'est pas les ayatollahs non plus, pour moi. Pour moi, le problème, c'est les pharmacas, tels que tous ces gens-là, y compris le pape, en particulier Benoît XVI et tant d'autres, les utilisent, mais le problème, c'est pas le pouvoir, mais il n'y a pas de pouvoir de l'Église, il n'y a pas de pouvoir religieux. Il y a plutôt un impouvoir, il y a des fantasmes en revanche, il y a de la culture, il y a des motifs, il y a toutes sortes de choses comme ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas combattre Benoît XVI, Jean-Paul II, Ben Laden, je ne mets pas du côté du religieux, les idées religieuses, tout ce que vous voulez. Ça, c'est une autre question. Pour moi, la question, l'enjeu politique, je dirais même géopolitique aujourd'hui, quant à la guerre des esprits, il n'est pas là. Et j'ai eu personnellement beaucoup d'amis dans le catholicisme, dans le protestantisme, en islam, je ne connais pas grand monde, mais mes problèmes ne sont pas tellement là. Après, qu'il y ait, je me revendique de l'Austria. Donc je me revendique et de Voltaire, et de Kant, et de Marx, et de Nietzsche, et de Freud. Donc, bien plus que de Heidegger ou de Husserl, hein. Je passe par ces gens-là, mais moi je me revendique de ceux que je viens de nommer là, c'est-à-dire ceux qui ont véritablement posé le problème, je dirais, d'une libération par rapport au livre avec un grand L. Donc ça, oui, je m'inscris complètement là-dedans. Mais en termes, je dirais, d'enjeux de lutte, y compris de ce qu'on pourrait appeler compromis historique, comme disait Enrico Berlinguer, etc., moi, je suis tout à fait prêt aujourd'hui à discuter avec des autorités religieuses que je respecte tout à fait. Bien qu'étant un combattant de la laïcité irréductible. Mais l'enjeu, pour moi, n'est pas là. Et je pense que... C'est pour ça que j'ai combattu je m'arrête tout de suite, Catherine. J'ai combattu le discours de traiter... Le bouquin de... Comment ça s'appelle ? Michel Onfray. Parce que je pense qu'il pose un faux problème. Bon. Bien entendu qu'il y a des problèmes de néo-théologie archaïsante et tout ce qu'on veut, c'est certain. Mais pour moi, ce sont des effets tristes, accablants. Non, mais c'est pas le sujet. Par contre, le sujet, c'est l'organologie de la majorité, où là, en effet, il faut une organologie. Alors là, par contre, je suis personnellement absolument intraitable sur le caractère laïque. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Là, oui. Là, il y a des bagarres à mener avec... excusez-moi, Catherine, mais je crois que Marc répond, voulait revenir, mais Catherine voudrait poser une question.
Oui, il me semble, là, il me semble quand même que lorsque Foucault stigmatise le pouvoir pastoral, qui montre, à mon avis, extrêmement bien comment, en fait, la cible de Kant non indiquée, comment ça définitivement par Kant, c'est ce pouvoir pastoral. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir pastoral? C'est, on va dire, la fabrique de l'intériorité. C'est les institutions qui ont en charge la fabrique de l'intériorité, quelle que soit cette intériorité. Aujourd'hui, il est clair que, disons, dans la hiérarchie du pouvoir pastoral, le marketing est plus fort que l'Église.
Absolument.
C'est la même hiérarchie.
Ah ben ça, je suis d'accord.
Bon, en ceci, on ne peut pas complètement évincer quand même la question de la religion. Tu vois, et la question du pouvoir des Églises, en sachant qu'aujourd'hui, effectivement, le marketing est plus fort, disons, d'une Église plus puissante que les Églises, les ex-Églises.
Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec ça.
C'est plutôt là que tu viens. C'est plutôt dans ta position par rapport aux identifications d'identité. Tu dis, on ne peut pas poser, se passer l'identification. Ok, mais est-ce que ça veut dire que pour autant, on doit en référer à une identité dogmatique qui serait le moteur de la transmission? Tu vois, moi, à mon avis, là, il y a des passages qui sont un peu rapides, en fait, pour moi, font problème.
Alors, ça...
Enfin, c'est pas forcément aujourd'hui le...
Oui, mais si je vais te répondre, c'est extrêmement important pour moi. J'ai pas eu le temps de le développer là, mais ça fait partie du propos que je vais tenir. L'identification ne conduit pas à l'identité, pour moi. C'est l'éternel malentendu par rapport au problème de l'identification. Que bien entendu, une identification dogmatique veut identifier l'identification. C'est-à-dire veut conduire à une identité. Et de ce point de vue-là, évidemment, toute église, ou disons tout appareil d'intériorisation, hein, d'identification, y compris le père, tout ce qu'on veut, hein, tend à produire cette identité, doit être combattue en tant que telle. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Mais là où mon adversaire, c'est pas le marketing, ça, mon adversaire, hein, d'ailleurs, je tiens à le redire, hein, c'est une certaine façon de faire fonctionner le marketing selon un modèle spéculatif, qui est, à mon avis, absolument ruineux pour l'avenir de l'humanité, pour toute majorité, etc. Mais le marketing, c'est une technique.
Comme organologie dogmatique. On peut dire que c'est quand même
oui.
Ça, l'ennemi.
Oui, oui.
Mais, numéro 1, en fait.
Oui, mais c'est le marketing tel qu'il est arrivé à travers sa psychotechnologie, ce que j'appelle son psychopouvoir, à un processus d'absolue désublimation. Or, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le religieux, et que je respecte, c'est pour ça que je disais que je respecte quelque chose, c'est que je parle du religieux, avec lequel je suis en incapacité de discuter. Hein, bon, parce qu'il y a des religieux avec lesquels en général, je suis en incapacité de discuter. Mais pas toujours. Ce religieux-là, il se pose une question de la sublimation. Et ça, c'est, pour moi, c'est la question fondamentale de l'époque. C'est la sublimation. Maintenant, par rapport à Foucault, moi, ce qui, bien entendu, tu as tout à fait raison sur ce que Foucault dit du pastoral, etc. Sauf que Foucault, il ne voit pas que le pastoral, c'est le marketing aujourd'hui. Il n'y a pas un mot là-dessus dans ces textes. Nulle part.
Non, parce qu'il
n'y
a pas eu tant d'un mot, mais il y en aurait eu, enfin, pas nécessairement.
En 1984, quand il parle de ces questions, ou quand même, je le rappelle dans un texte que je vais publier sur Foucault bientôt, La persuasion clandestine de Vance McCarran existe depuis déjà 30 ans. Il l'a lu, parce que... la persuasion clandestine de Vance McCarran, c'est extrêmement puissant comme analyse de ce qui se passe. Je veux dire, la question du marketing... Mais cette question du marketing a été passée par Adorno, par Marcuse, par... Mais Foucault n'en dit rien. Ça, c'est un choix. Je veux dire, c'est pas un hasard. Je pense, hein. Je me trompe peut-être, pardon.
Je suis américain académique, donc il y a une question à propos de la disciplinarité qui m'intéresse ici, C'est pour nous, c'est le Pharmacon, le plus grand dans notre histoire. Mais comment ça s'est passé? C'est très simple. C'est brutalement simple. Toutes nos institutions d'enseignement étaient religieuses. Il était des séminaires. Harvard, Yale, Princeton, tout était un séminaire. Comment est-ce qu'il aurait se transformé pendant la vague de la science spéculative, surtout matérialiste, qui commençait à venir de l'Europe? Ça, c'est Darwin. Diderot même, figure comme ça. Il y avait un recours qui est donné à tout le monde anglo-saxon par John Stuart Mill. Il était le positivisme. Parce que la disciplinarité chez Kant est une sorte de systématologie de rendre absolument nul la promiscuité des séances spéculatives. Et sont mis en place, je vous promets, en 20 ou 31 ans pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Bon, quand arrive la grande vague, la deuxième vague maintenant de la science spéculative de l'allemand, qui était déjà un positivisme en beaucoup de manières, ça c'est aussi, il y avait toujours cette décision inconsciente de la part des institutions sur base de religion de se conserver. Et c'est Kant qui lui a donné la possibilité de faire tout ça. Et ça reste en place chez nous. C'est extraordinaire. Il y a ici le français, la littérature française. Ici, la philosophie. Ici, la sociologie. Et c'est même, je suppose, c'est la même chose en France, sans doute avec assez de différence. Mais ça, c'est une fois la grande, n'est-ce pas? C'est une sorte de... Chez les théologiens qui étaient les princes des collèges et des institutions de, mettons, de moitié du 19e siècle, c'était leur chance. C'est comme ça qu'ils ont discipliné l'esprit spéculatif. C'est tout que je me répète un peu. Il faut faire une étude extensive, riche de l'appropriation comme ça des théologies sécularisées comme chez Kant. Mm. C'est ça. Et Mill aussi, qui était bon, c'est pas ici. Il n'y a aucun silence chez lui, et il y a des gens comme Charles Sanders Peirce, qui cite Herschel, qui ridicule férocement tout ce qui arrive de côté de Kant. Pour eux, c'est un fou. C'est un fou terrible. C'est comme ça.
Et sur cette question, c'est très compliqué, ces questions de la... Bon, comment dire... La discipline... C'est extrêmement polysémique quand on commence à y réfléchir. Ce qui se cache derrière le mot discipline est extraordinairement polysémique. Moi, ce que j'essaye de faire, alors là, j'ai une reconnaissance.
Département, mettons.
Oui, mais ça, c'est une dimension, je dirais, assez tardive et institutionnelle. Qui passe. Alors, c'est un des reproches que j'ai fait, je crois que j'ai dit autrefois, à Foucault, c'est que Foucault ne dit rien d'Ignace de Loyola, ne dit rien, alors qu'il ne s'appuie sur. Dans tout ce qu'il dit sur l'école, sur surveiller et punir, il ne s'appuie que sur les textes religieux. Et pratiquement, il n'y a pratiquement pas de référence à des textes sur l'école laïque. Et il ne dit rien, ni de Luther, ni de Loyola. C'est quand même assez problématique, parce que on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans les collèges jésuites, par exemple, si on ne rapporte pas ces choses aux exercices spirituels, voilà, il y a quelque chose de... Je ne veux pas dire que les collèges sont une simple institutionnalisation, mais c'est lié à une double question disciplinaire, qui est une question de la règle au sens monacal du terme, et de la discipline au sens de l'organisation du savoir, bien avant les institutions en département disciplinaire, etc. Et outre cela, les disciplines renvoient à toutes sortes de y compris à commencer par ce que Foucault appelle la société disciplinaire, c'est-à-dire le respect de d'abord de la norme, puis du règlement, etc. Ça, c'est un sujet extrêmement complexe. Là où, mais je ne saurais pas répondre aux questions, parce que je suis totalement incompétent et incapable d'y répondre, mais en revanche, là où ce que vous dites m'intéresse énormément, et j'espère bien que je viendrai, ça fait partie de mes projets de venir sur ces sujets dans les années prochaines, j'espère que j'aurai le temps et l'énergie, c'est que précisément, et c'est aussi ça que j'ai à l'horizon de ma question du mystagogique, la discipline conjugue toujours à un moment donné l'enseignement, c'est-à-dire la connaissance telle qu'elle est absolument purifiée de toute mystagogie, parce qu'une connaissance n'est pas mystagogie, sinon c'est pas une connaissance. Et en même temps, passe toujours, pas simplement dans les institutions religieuses d'enseignement, hein, passe toujours, c'est pour ça que j'ai voulu citer Sloterdijk, même si on sait que Heidegger vient du séminaire, hein, bon, mais quand les propos dont parle Sloterdijk existe, c'est pas ceux qui viennent du séminaire, c'est ceux qui viennent de la phénoménologie. Passe toujours à un moment donné par quelque chose qui est de l'ordre de l'initiatique, de l'exercice spirituel, de je sais pas quoi. Et là, il y a quelque chose qu'on n'a, à mon avis, pas encore du tout travaillé. Et qu'on aurait tort, je dirais, de rapporter ça simplement à une histoire religieuse du problème. Voilà, c'est ça que... Après, par rapport à ce que vous disiez, en particulier par rapport ce qui se passe en Amérique, évidemment, moi je passe par Sam Weber, par Max Weber, à chaque fois que je réfléchis à ces questions, mais peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est mon inculture de la culture américaine qui me fait passer par là un peu trop vite, quoi.
Oui. Et on va revenir sur cette organologie de la majorité en la prenant par le petit bout. Est-ce que le Conseil général de l'Île-de-France qui distribue 100 000 ou je ne sais plus combien clés USB, ça fait partie de cette organologie de la majorité? Est-ce que l'initiative d'un professeur du MIT de doter des ordinateurs pour les pays en voie de développement à 100 ou finalement 200 dollars, est-ce que ça fait partie de cette organologie de la majorité? Est-ce que le marketing qui distribue des goodies pour descendre la pente, ça fait partie de cette organologie de la majorité là? Est-ce qu'on parle de ça quand on parle de l'organologie de la majorité?
Tout à fait, sauf qu'une organologie de la majorité est toujours déjà une organologie de la minorité. C'est-à-dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre, et au moment même où on peut croire organologiser la majorité, on peut en fait être en train de développer la minorité. C'est tout le problème, et c'est précisément ce que dit Kant. C'est-à-dire, il dit, méfiez-vous, je peux vous servir, vous tenir lieu d'entendement, moi Kant. Vous pouvez me lire, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Je suis bien d'accord avec vous, Michel, hein, ou avec ce que disait Catherine, ce qui est à l'horizon, c'est le pastoral. Mais attention, lorsqu'il dit... Le livre peut tenir lieu d'entendement, il ne parle pas simplement des religions. Il parle de Kant lui-même qui peut servir de pseudo-pensée et en fait d'une minorité qui se croit majeure. Bon. Et ça, c'est pour moi le vrai sujet. C'est là que ça devient vraiment problématique. Parce que nous sommes là-dedans. Quand même, nous en connaissons des paquets de perroquets, de singes ou de chiens savants. Ils sont des mineurs savants. C'est notre problème, je dirais. C'est le nôtre, y compris. C'est le mien, je veux dire. Nous sommes tous exposés à ça, mais nous sommes dans une époque où il y a quand même un paquet de singes et de perroquets assez hallucinants, bon, très très savants, et de chiens savants. Mais maintenant, pour répondre précisément à votre question, quand je dis qu'il faut poser les problèmes de pharmacologie en termes d'organologie, c'est pas que je me gargarise seulement de mots nouveaux que j'aime bien, j'aime ça, hein, fabriquer des mots. Mais c'est pour une raison précise. La pharmacologie, ce que j'appelle moi la pharmacologie, c'est ce qui tend à rendre compte d'effets produits par un dispositif, par ce que Foucault appelle un dispositif, tel que d'ailleurs Agamben l'a commenté récemment. Il y a un dispositif, par exemple la molécule de l'aspirine a des effets de tel et tel type, avec un spectre d'effets, et on va vous dire... Par exemple, pour les gens qui ont des problèmes de coagulation du sang, c'est très bien de prendre de l'aspirine. Pour les gens qui ont des problèmes d'estomac, comme moi d'ailleurs, c'est très très mauvais de prendre de l'aspirine. Moi, je ne prends jamais d'aspirine, je ne peux pas en prendre. Hein. La pharmacologie, c'est ce qui décrit des champs de possibilités. Et aussi de combinaison avec d'autres pharmacas, parce que vous ne pouvez pas associer, par exemple, l'aspirine avec tel autre médicament. Ça peut créer des... Bon, je prends le champ pharmaceutique parce que c'est celui que nous connaissons tous comme pharmacologie, mais sauf que la pharmacologie, ce n'est pas simplement le champ pharmaceutique. C'est, les ingénieurs, ce sont des pharmacologues de procédés, hein, en biologie, en mécanique, en électronique, tout ce que vous voulez. Ça relève de ça, d'ailleurs, de ce que Simon appelle la mécanologie, de ce point de vue. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est la thérapeutique. Et la thérapeutique, c'est jamais simplement de la pharmacologie, c'est aussi de l'organologie. Ce que je veux dire, que, si vous allez voir, par exemple, un médecin qui est attentif, je dirais, à la globalité de votre être et pas simplement aux soins du symptôme que vous lui apportez, il va vous dire, en principe, c'est ça un bon médecin, il va raisonner pas simplement pharmacologiquement, mais organologiquement. C'est-à-dire qu'il va raisonner d'abord entre les différents organes, il va dire je vais soigner cet organe, mais si je le soigne à tel prix, ça peut détruire tel autre organe, ou en tout cas le mettre en conflit. Et puis il ne va pas raisonner simplement au niveau de vos organes physiologiques, mais au niveau de votre psychique. Et puis votre psychique, ça va l'amener à votre famille, donc à l'organisation sociale et au travail, etc. Bon. La clé USB distribuée par le Conseil Général, très bien. Je crains, c'est pas du tout, je vais pas faire un procès d'intention ou quoi que ce soit au Conseil Général, parce que je connais pas le dossier en plus, mais je crains que ça se fasse, je dirais, dans une espèce de mimétisme, où on sent qu'il faut faire quelque chose là, on sent qu'il faut faire quelque chose dans le domaine, mais en même temps on se donne absolument pas les moyens organologiques de le faire. Et ça, alors là, c'est vraiment ça donc, que j'essaye de soulever comme problème ici. Et je crois que c'est ça aussi qu'on essaye de faire dans l'art industriel. C'est-à-dire c'est de dire, si vraiment on veut prendre ces problèmes, prenons-les au niveau de l'ensemble. Par exemple, les clés USB, c'est produit, en voilà une, hein, une clé USB. Celle-ci marche avec tel type de logiciel. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Pourquoi est-ce que j'ai enregistré ce séminaire tout à l'heure? C'est pour le mettre sur le site d'art industriel. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces enregistrements? Bah, toutes ces questions, il faudrait les poser. Et je ne les vois pas poser. Et je ne vois pas poser non plus comment ce genre de pratique peut remettre assez radicalement en cause des pratiques qui sont liées à la culture, dont nous, les profs, sommes les transmetteurs. Et je n'ai jamais vu personne, par exemple, se poser la question de comment, sauf Catherine Hales, justement, qui pose cette question, comment nous allons parvenir à faire que nous, qui ne connaissons pratiquement rien à ces questions qui ne les pratiquons pas, etc. Allons pouvoir nous agencer. C'est un sujet du niveau Jules Ferry ou du niveau Condorcet. Et à partir de là, je crains que l'organologie dont vous parlez là reste une organologie de la minorité. C'est-à-dire qu'elle soit pleine de bonnes intentions. Mais
c'est une organologie qui est également menée comme une campagne marketing et donc qui a des cibles et qui du coup, évacue l'organologie à proprement parler.
Exactement. Non, c'est pas une organologie. Enfin, c'est une.
Ça fait encore des dispositifs.
C'est une pratique organologique, mais c'est pas une organologie. Ouais. Tout à fait. Et effectivement, à mon avis, c'est une opération de marketing politique, bien sûr. Tout ce qu'on fait.
Il y avait quand même des logiciels libres sur les clés USB, c'était mieux que les données de manière.
Oui, mais le réel avance toujours de manière aussi comme ça. Et bon, après, c'est à nous aussi de savoir le critiquer, le repenser. Jean-Paul.
Personne. Précisément, dans cette organologie, tu n'as pas fait l'impasse sur la question de l'aristocratie, même si ce n'était pas l'objet de ton propos aujourd'hui. Tu l'as juste cité pour dire qu'elle existe, elle est nécessaire. J'ai cru comprendre, en tout cas. Quelle place dans cette organologie? Comment la reconnaît-elle? Et comment joue-t-elle entre minorité et majorité?
Moi, j'ai posé dans un bouquin que je suis en train de finir hein, en ce moment, que, un petit peu d'ailleurs, ça va peut-être vous faire rire dans une certaine rhétorique de George Sand, que... la scolarisation obligatoire laïque est un anoblissement des enfants. Pourquoi ? Parce que la scolarisation obligatoire laïque pose en principe que le peuple a droit à l'osium, comme tous les nobles y avaient droit jusqu'à maintenant. Et que c'est ça, la seule possibilité de penser le scoléion, qui donne accès, en principe, comme son nom l'indique, à la scolaire. La scolaire, c'est l'espace de la liberté des nobles. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un noble ? Autrement dit, un aristocrate, c'est un homme libre. Donc, vouloir libérer majoritaire, comme sous forme de la majorité, un esprit, c'est vouloir l'anoblir. Donc moi, je suis pour l'anoblissement de tous en droit. Pas en fait, parce qu'il ne faut pas. Sinon, on tombe dans ce que les libéraux, que je ne suis pas, appellent l'égalitarisme, mais souvent à juste titre. Ils dénoncent un égalitarisme qui est nuisible à l'anoblissement des esprits. Il consiste à dire que, parce que les gens peuvent être anoblis en droit, ils ne le sont en fait pas du tout. Pas du tout. Mais c'est une question de droit politique. La Révolution française, pour moi, ce n'est pas la destruction de l'aristocratie, c'est l'élévation de l'aristocratie au niveau de la majorité. Voilà. Et une démocratie, c'est ce qu'il y a pour tâche de passer à l'acte voulant dire chaque citoyen de la démocratie devient un aristocrate, c'est-à-dire celui qui croit au pouvoir du meilleur. Moi, je crois au meilleur. Le meilleur étant ce qui relève, pour moi, de ce que j'appelle les consistances. Alors après, évidemment, un discours comme ça, j'hésite beaucoup à le tenir. Je ne dirais pas ça à la radio, parce que, évidemment, ça serait utilisé, mal compris, etc. C'est pas évident, parce que les gens ne pensent pas que liberté veut dire noblesse, spontanément. Ils ont plutôt tendance à penser que noblesse veut dire aliénation des serfs. Et ça, c'est une façon très historique, réelle, mais...
Et vous parlez de la méritocratie.
Oui, de ce point de vue-là, je parle de la méritocratie, mais je me reconnais bien dans la méritocratie personnellement. Hein, moi j'y crois à la méritocratie. Mais je pense que, si vous voulez, philosophiquement parlant, organologiquement parlant, pharmacologiquement parlant, c'est pas dans ces termes qu'il faut poser le problème. Et alors là, pour le coup, il faut le poser en termes d'aristocratie, véritablement. Parce que l'aristocratie, ça renvoie à des choses précises sur lesquelles il y a un discours énorme de la philosophie, depuis les Grecs en passant jusqu'à Nietzsche en passant par les Romains, bon, qui est colossal. Et qu'il y a eu un refoulement à cause de la Révolution française. Beaucoup. Il y a eu un refoulement de la pensée du meilleur, en tant que pouvoir du meilleur, en tant que pouvoir de l'Aristote. Qui est nuisible. Et la méritocratie était une manière, cette expression typiquement française, hein, parce que c'est un mot typiquement français, la méritocratie, pour décrire le système français de ce qu'on appelle aussi l'ascenseur social. Bon. Avec l'école normale supérieure créée par la Convention, enfin tout ce blabla qui est aujourd'hui une façon de ne se poser aucun des vrais problèmes. C'est un alibi pour ne pas se poser ces questions, pour moi. Alors, je ne récuse pas du tout la méritocratie, je la revendique complètement, je voudrais la protéger parce que je la crois extrêmement menacée. Quelqu'un dit ici, je crois que c'était vous l'autre fois, vous avez parlé de l'égalité de la malchance. C'est bien vous qui en avez parlé l'autre fois, non ? Non ? Je ne sais plus, quelqu'un.
C'est moi, je crois.
Ah, c'est toi, Marc. Bon, on n'est plus face à l'égalité des chances, mais l'égalité de la malchance, en effet. Et ça, c'est la destruction de la méritocratie. Mais. Pour poser des termes, je pense, spéculativement, au sens philosophique du terme, je crois qu'il faut poser les termes, en effet, en termes d'argent. Sauf de scolaire, et de suivi.
Ne croyez-vous pas qu'à l'heure actuelle, justement, se pose le problème de l'école, parce qu'on voit tous les élites, tous les hommes politiques, enfin, tous ceux qui ont voté, mettre leurs enfants dans des institutions privées. Alors ça pose le problème de la laïcité, de la pastorale, parce que c'est le père qui met ça, qui met ses enfants dans ses institutions. Alors ça pose vraiment le problème de la liberté, de l'égalité. Si vous êtes dans l'enseignement, vous devez savoir que c'est comme ça, surtout en primaire et au collège, tous les enfants vont en privé maintenant. Alors
Mais ça,
quelle organologie vous proposez?
Pardon?
Quelle organologie vous proposez?
Bon, ça c'est une immense question. Je vais vous répondre très 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 franchement. Il m'arrive souvent de réfléchir à créer une école privée. Parce que moi je suis pour l'école publique, mais bien entendu, bah, c'est pas si bien entendu que ça, il y a des gens qui sont pas pour l'école publique. Mais en tout cas, moi je suis pour l'école publique. Mais je pense qu'aujourd'hui, les conditions effectives pour changer quelque chose, si vraiment vous voulez changer quelque chose, si moi j'avais aujourd'hui un certain nombre d'assurances, je m'engagerais dans la création d'une école privée. Ça peut vous paraître très contradictoire avec tout ce que j'ai pu raconter. Je pense que nous sommes dans une situation, alors là pour le coup, absolument catastrophique à l'école. Et je crois que pour pouvoir réinventer quelque chose, il faut se libérer des contraintes de l'éducation nationale. Ce n'est pas contre l'éducation nationale que je dis ça. Maintenant, puisque tout est toujours une affaire, comme disait Descartes, d'ordre des questions. L'ordre des questions n'est pas celui-là, pour moi. L'ordre des questions, c'est d'abord de travailler sur le milieu pharmacologique, c'est-à-dire le milieu symbolique qui, à l'intérieur duquel se pose la question de l'école, publique ou pas publique. Et cet ordre des questions, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure à Michel Legui. Aujourd'hui, notre adversaire, pour moi, c'est plus comme à l'époque de Ferry, la domination des jésuites dans certaines régions, des églises protestantes ailleurs, etc. C'est la domination d'un système de désublimation organisé systématiquement par un marketing qui est en concurrence avec ce qui était autrefois le dispositif de captation de l'attention pour transformer cette attention en une capacité de se projeter dans sa noblesse, c'est-à-dire dans ses idéalités, dans ses objets de discipline, au sens, au vieux sens du mot d'épiméria, par un dispositif qui ruine le système éducatif. Et nous le savons, vous savez très bien, tout le monde l'a répété, mais je le répète une énième fois, on a commencé par dire, il y a 25 ou 30 ans, les mômes n'arrivent plus à rentrer en 6e, puis après on a dit ils n'arrivent pas à rentrer en 3e. Et maintenant, c'est nous qui disons dans l'université, y compris en 3e cycle, nos étudiants ne savent plus lire. C'est une réalité.
Oui, mais est-ce que c'est les institutions privées ou c'est payant qui va régler le problème?
Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit.
Vous pouvez dire vous-même que si vous pouviez.
Oui, parce que je voudrais pouvoir expérimenter. Et que je crois, bien sûr, je crois qu'aujourd'hui, si je voulais, j'ai connu moi des amis, à Clamart, il y avait un lycée expérimental, il y a eu à Nantes, il y en a eu. Ça n'a pas fonctionné parce que dans le cadre de l'éducation nationale, vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sur le plan de l'expérimentation. Ça, je le crois.
C'est l'argent.
Je comprends, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que. L'ordre des questions n'est pas celui-là, que par ailleurs, en revanche, il faut expérimenter, il faut absolument créer. Moi, je crois à l'exemplarité. Je pense que dans la vie, il n'y a que quand on a fait quelque chose d'exemplaire, que ça se reproduit et que d'autres font autrement après, mais s'inspirent de ce que vous avez fait. Il faut pouvoir exemplairement faire des expériences. On ne peut plus, au sein du ministère de l'Éducation nationale, faire des choses comme ça, à ma connaissance. J'ai peut-être tort, et si j'ai tort, c'est une formidable bonne nouvelle. Mais malheureusement, tant mieux. Et si vous avez des tuyaux à passer là-dessus, je suis très preneur.
Tout à l'heure, vous employez le terme d'aristocratie. Ne pensez-vous pas, d'une certaine façon, vous éliminez l'élite?
D'une façon, le jeu.
D'une certaine façon, vous éliminez l'élite.
Pourquoi?
Eh bien, par exemple, vous aviez Vitesse. Donc, lui, il considérait que, pour son théâtre, il ne s'agissait pas de faire un théâtre au plus bas, mais au plus haut, amenant la population, disons, des catégories les plus basses, à devenir elle-même une élite. Et donc, c'est, pour ma part, enfin, sur le plan politique, en tous les cas, c'est cette question qui me semble intéressante, plus que le pôle aristocratique.
Mais je ne vois pas la différence avec ce que vous dites. Je dis exactement ce que vous dites.
C'est parce que vous pensez à l'aristocratie comme un droit, qu'elle est indexée à un droit de naissance en partie. Mais ce n'est pas une aristocratie fondée sur un droit de naissance. En fait, l'aristocratie à laquelle pense Bernard, c'est une méritocratie.
C'est exactement ce que dit Vitesse. Enfin, moi, je.
Elle n'est pas fondée sur la naissance.
Non, mais il y a quand même une permission. Mais vous-même, vous indiquez la connotation. Enfin, il y a quand même la connotation du terme. Et je veux dire, est-ce que c'est absolument légitime de se dessaisir de la connotation pour en faire autre chose?
Je pense que parfois c'est indispensable. Je crois qu'il y a des moments.
Ici, il y a une longue histoire. Il est utilisé aussi dans beaucoup d'usages dans lesquels il est quand même déconnecté de cette référence forcément à une naissance, à un droit de naissance. C'est une autre. Par exemple, quand Bernard fait signe vers la pensée Nietzsche, de l'aristocratie, c'est pas forcément l'aristocratie chez Nietzsche, c'est pas forcément fondée sur
l'aristocratie. L'aristocratie de l'âme. Voilà.
Bah, pour moi, quand.
Vraiment pas du sang.
Quand Aristote parle de l'âme noétique, il parle d'une âme aristocratique. Le passage à l'acte noétique de l'âme est un passage au niveau aristocratique de l'âme. Mais là, bon, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, peut-être que je me suis très très mal fait comprendre, ou pas du tout même, mais quand je répondais sur la question de la méritocratie, justement, je pense que la méritocratie a empêché de se penser, de poser le problème de l'aristocratie. Et que c'est un refoulement politique catastrophique, qui en général d'ailleurs permet à l'extrême droite d'envahir ce terrain et de. Voilà ce que je crois. Mais. Pardon, juste.
Vous avez un peu choqué en disant que vous voulez créer des écoles privées, mais la bataille, l'intelligence, la guerre, l'ennemi, si j'ai bien compris, ce sont les médias. Actuellement, là, on traite.
J'ai dit.
Que faire? Je veux dire, nous, on ferme la télé, on lit des livres, mais en face de nous, quand on s'enseigne, on a des gens qui regardent que la télé. C'est toute analogie du reste. Alors, à cette question philosophique fondamentale, que faire?
Oui, oui, la question de toute façon qui se pose là aujourd'hui, pas simplement aujourd'hui dans ce séminaire, depuis qu'on l'a ouvert, c'est que faire, hein, de toute manière. Et c'est par rapport à cette question que faire que je prends très au sérieux ce que vous dites, et j'essaye de répondre scrupuleusement et sans cacher, sans arrière-pensée, j'essaye pas de vous dire. Bon, je suis désolé de vous avoir choqué en disant que je suis prêt à créer une école privée qui serait associative et à but non lucratif, mais. Non, je crois pas que ce soit une fuite, parce que je pense que justement il faut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se lamenter en disant qu'on ne peut rien faire, il faut faire absolument quelque chose. Et donc, si on n'arrive pas à le faire à l'éducation nationale, je suis désolé, mais ça fait 30, ça fait 40 ans, ça fait depuis 68 qu'on essaye de faire des choses, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Alors, après, par rapport aux médias, hein, qui est une question très très importante, évidemment, je dirais, là aussi, il faut poser la question organologiquement. C'est pas les médias en tant que tels. Le livre dont parle Kant, comme l'espace de la vérité, c'est un média. D'abord, les médias, il y en a toutes sortes. La télé et la radio, c'est pas du tout la même chose. Internet et la télé, c'est pas du tout la même chose, etc. Il faut analyser, alors là, phénoménologiquement, ce qui s'y passe. Et comment chacun de ces médias peut à la fois être un remède et un poison, selon telle et telle condition. Dans le cinéma, on a des historiens du cinéma depuis 50 ans qui ont fait des choses formidables. Sur la télévision, il n'y a pas grand-chose. Et sur Internet, on a quasiment rien. Mais il faut faire ce film. Après, parce que vous le savez, Patrick Lely a déclaré il y a à peu près exactement un an, dans une réunion privée, mais ça m'a été rapporté par la personne avec qui il parlait, que j'ai vu quelques jours plus tard, il a dit « La télévision généraliste est finie, TF1 est mort dans 5 ans. » Il y a en ce moment un effondrement généralisé de tous ces médias qui est en train de se jouer. Et moi, évidemment, une des propositions que je veux avancer dans le débat public, et au niveau européen, je m'adresse à François Fillon aujourd'hui comme ça, c'est de la rhétorique, je ne crois pas du tout, mais je pense qu'au niveau européen, il faut essayer de faire avancer ces choses. Il faut dire, aujourd'hui, et parfois je m'appuie sur Al Gore, et pas simplement parce qu'il a eu le prix Nobel, parce que moi je crois qu'Al Gore dit des choses intéressantes, on m'a beaucoup reproché ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui dit parfois des choses vraiment intéressantes, sur ce sujet des médias en particulier. Il faut aujourd'hui poser que les médias sont devenus le numéro un de l'industrie actuelle. Hein, les médias conditionnent toutes les autres économies industrielles. C'est donc le secteur stratégique numéro un. C'est ce que les Américains savent déjà depuis presque 100 ans. Avec le soft power, on en a déjà parlé. Et qu'il est absolument capital d'inventer un nouveau système de médias et qui produise de l'intelligence. Et je pense, moi, qu'il faut spéculer là-dessus. Maintenant, l'adversaire pour moi, c'est pas les médias, c'est le court-termisme spéculatif qui utilise ces médias. C'est ça la grande question. Après, en revanche, quand je dis, je l'ai déjà dit autrefois, il y a des âges du pharmacone, et moi je considère par exemple que la télévision pour des enfants de moins de 3 ans, c'est intrinsèquement destructeur, comme l'alcool, vous donnez de l'alcool à un bébé de 6 mois, ça le détruit. Bon. Quelle que soit la qualité de cet alcool, quelle que soit la qualité du programme de télévision, ça fait partie aussi des analyses pharmacologiques qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui sont très nocifs entre tel et tel âge. Voilà. Ben, tout ça, c'est un champ à développer de travail qui n'a rien de fait. Hein. Il faut arrêter, oui. C'est la dernière question parce qu'on aurait dû libérer ça. Pardon. Ah, excusez-moi, parce que...
Non, c'était juste une remarque.
Excusez-moi, parce que là, il demandait la parole.
Sur l'école, Bertrand Russell a passé sa vie à fonder des écoles.
Qui ça?
Bertrand Russell, le philosophe anglais. Donc, effectivement, en essayant de... Je dis qu'il allait d'ailleurs beaucoup plus loin que Somerville. Mais ce n'est pas ça ma question, mais évidemment, c'est un peu tard pour la poser. Je vois bien ce que vous dites sur la désublimation comme destruction, mais... Sur la sublimation, ce concept me semble extrêmement compliqué. Et Lyotard, par exemple, qui avait quand même un peu travaillé le sujet, disait qu'il ne voyait pas trop ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que veut dire que cette énergie qui deviendrait à un moment désexualisée? Et ma question, ce serait, en quel sens, bon, c'est un peu tard pour poser ça, parce que c'est évidemment une bibliothèque qui s'ouvre, enfin, en quel sens est-ce que vous prenez le concept de sublimation?
Alors, je vous réponds en 30 secondes, parce qu'effectivement, je vous libère à ça, je veux quand même vous laisser poser la question. Mais pour moi, j'ai une lecture radicale là-dessus. Tout à fait en désaccord avec Lyotard sur ce point, alors, radicalement désaccord avec lui, la libido est intrinsèquement sublimatoire. Il n'existe pas de libido qui ne soit pas sublimatoire, à mon avis. C'est évident que chez Freud, on ne trouve pas ça. Même s'il y a des passages de Freud, pratiquement il le dit. Pratiquement il dit ça. Mais ce n'est pas du tout net. C'est pas une position, c'est clair. Tout à fait clair. Après, sublimatoire ne veut pas dire désexualisé.
Bon, c'est ça la question des
consommateurs. Sublimatoire, ça veut dire socialiser. Et donc, ça renvoie. Alors, moi, je passe par Simondon pour ça. Pas simplement par Freud. Je dis, ça veut dire que le psychique devient du collectif. Et avec Simondon, je dis, le psychique est toujours déjà du collectif. Après, qu'il puisse y avoir des fonctionnements pulsionnels, des processus primaires qui ne se socialise pas, etc. Bien entendu, on connaît ça tous intimement en permanence. Mais n'empêche que l'individuation passe par ça. Et ça, j'appelle ça la sublimation. Oui, excusez-moi.
La télévision telle qu'on la voit, qu'on la connaît, est programmée pour nourrir les chaînes génériques depuis 10 ans. La matrice des chaînes de télévision numérique, c'est-à-dire par ordinateur, qui sont une forme d'individuation. Ça fait 10 ans que je connais le projet. Les informaticiens qui travaillent à Orsay, qui travaillent avec des politiques très connues qui ont des grands rôles actuellement, des transfuges de la gauche vers la droite. Donc ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'individuation que crée un programme informatique, si chacun a un ordinateur ou la clé USB? Est-ce que là, il y a une individuation? Où se passe à ce moment-là, si dès le plus jeune âge, un enfant a un ordinateur? Des représentations premières.
Bon, vous posez une énorme question à un moment où on nous demande de libérer la salle.
J'ai attendu parce que bon.
Les
télé numériques, elles sont prévues depuis 10 ans.
Non, mais là, c'est.
C'est
là... c'est pas tout à fait. Enfin, je poserai pas la question dans ces termes-là. La télé numérique, qui est un sujet que je connais vraiment bien, pour le coup, là, très bien. Je ne poserai pas tout à fait dans ces termes. Mais en revanche, sur le logiciel, pas du tout la même chose, parce que le numérique et l'informatique, c'est pas la même chose. Sur le logiciel, tout dépend là aussi de l'organisation organique. Si vous avez affaire à du logiciel. Bon, on y reviendra.
Oui,
excusez-moi. Hein. Alors, la prochaine séance, c'est en 15 jours, c'est bien ça? le 14 novembre.
Le 14.
14 novembre, c'est Georges Collins qui fera la séance du 14 novembre et celle de fin novembre. Voilà. Et début décembre, Catherine Perret.
Voilà, c'est fini.